3h30 en temps universel, il est 6h30 à Antananarive. Merci d'écouter RFI.
Arthur Ponchelet.
Bonjour, bienvenue, c'est Afrique Matin qui commence. À la une messe et 6 km dans les rues de Rome. Le Monde a dit adieu au pape François. Hier, des obsèques suivies par des centaines de milliers de personnes sur place, mais aussi par les fidèles africains. Reportage à Kinshasa dans un instant. Une avancée pour certains, pas assez pour d'autres. Parole de politique à Madagascar après la visite d'Emmanuel Macron. On l'entendra, le dossier des îles éparses continue de faire réagir. Dans ce journal aussi, la RDC et les producteurs de fromage de Massissi qui tire la sonnette d'alarme. Du foot, suite de nos portraits des nommés au prix Marc-Vivien Fauré. Et puis, il revisite ses tubes avec une petite touche d'électro. On écoute le dernier album de Femi Kuti à la fin de ce journal. Franciscus, François, en latin, c'est tout ce qui est désormais écrit sur la tombe du pape François dans la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Rome. 400 000 personnes se sont pressées hier dans les rues de la ville éternelle pour un dernier adieu à ce pape du bout du monde, selon ses propres mots. Un pape proche du peuple et des plus pauvres, c'est aussi comme cela que l'on se souvient de François à Kinshasa. Des centaines de fidèles étaient rassemblés hier dans la cour de la cathédrale Notre-Dame du Congo pour suivre en direct les obsèques du pape. Reportage Pascal Moulégois.
Au moment où les derniers amens retentissaient depuis Rome, l'émotion a envahi les parvis de la cathédrale. Les mains jointes, certaines fidèles comme Mariette, la soixantaine, restaient plongées dans une prière profonde.
Vraiment, je ne sais pas comment le dire. C'est une douleur pour nous et surtout nous qui l'avons vu. Je sais qu'au ciel, il va chaque fois prier pour nous et surtout nous les Congolais, parce qu'il a été ici à Kinshasa, et à la Vierge Marie, il va confier nos problèmes. C'est une bougie qui s'est éteinte, mais qui est allumée perpétuellement dans nos corps.
Noëlla sort lentement de la foule avec une petite effigie du pape.
C'est un modèle de foi, de simplicité, d'humilité. D'ailleurs, regardez ses obsèques, comment ça se passe. Il a simplifié beaucoup de choses. Après lui, viendra également un autre pape qui sera également l'élu de Dieu qui va continuer sa mission.
Le nom du prochain souverain pontife n'est fait l'objet d'aucune inquiétude pour Igor, qui souhaite un autre François.
Ce n'est pas question de nationalité, qu'il soit à l'exemple de celui qui vient de nous quitter. C'était vraiment un pape qui était proche de fidèles.
Les écrans sont éteints, les chaises en plastique stockées. Pour les fidèles, c'est une nouvelle période des prières qui commence pour accompagner les cardinaux dans les choix du nouveau pape dans les prochaines semaines. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Une centaine de chefs d'État étaient présents à Rome hier, parmi eux le président français. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron était à Madagascar pour la dernière étape de sa tournée dans l'océan Indien avec son homologue Ange Radzoel. Ils ont annoncé relancer la commission mixte sur les îles éparses. Rendez-vous le 30 juin à Paris pour discuter de l'avenir de ces 5 atolls contrôlés par la France mais revendiqués par Madagascar. Sur la grande île, quelle réaction politique à cette annonce ? RFI Antananarive, Guillaume Fabry.
Les îles éparses sont malgaches, affirmait le président Ange Radzoel en octobre dernier en souhaitant une rétrocession de la part de la France. Un scénario écarté par Emmanuel Macron lors de sa visite d'État. Mais pour la ministre des Affaires étrangères malgache, Razata Rafravavitafik, l'organisation d'une nouvelle réunion le 30 juin est tout de même une avancée.
Madagascar revendique officiellement ses îles depuis les années 1970 et en 1979, l'Assemblée Générale des Nations Unies a d'ailleurs soutenu cette revendication. Aujourd'hui, Madagascar reste attaché à une solution respectueuse de ses droits historiques et conformes au droit international. Chaque étape franchie est pour nous une reconnaissance de la légitimité de notre position.
Pour l'opposant Ads Anjanainarivel, à la tête du parti MMM, la France doit d'abord transférer la souveraineté des îles éparses à Madagascar avant d'envisager un quelconque système de cogestion. Il appelle le président malgache à réaffirmer lui-même cette revendication ancienne face au refus catégorique de Paris.
On veut une réponse ferme de André Azuel par rapport à la situation de ces îles. Là-dessus, nous serons intransigeants. Nous le mettons en garde de ne pas changer le cours de l'histoire, nous malgaches. Nous exigeons la souveraineté du pays sur ces îles-là.
Grâce aux îles éparses et aux zones maritimes associées, la France contrôle environ la moitié du canal du Mozambique, une route commerciale de plus en plus empruntée et un espace riche en ressources halieutiques et gazières. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
6h35 à Antananarive, une heure de moins à Djouba. Le Soudan du Sud peut-il sortir rapidement de la crise politico-militaire ? Le gouvernement a en tout cas présenté un plan d'action pour mettre en œuvre l'accord de paix de 2018. Depuis plusieurs mois, rien ne va plus entre le pouvoir pouvoir de Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. Cette semaine, l'armée a annoncé la reprise de la ville de Nasir dans le nord-est à la White Army, une milice proche de Riek Machar. Mais dans la foulée, des combats ont éclaté au sud de Djouba, la capitale. Et c'est donc dans ce contexte, Florence Mietto, que le ministre des Affaires du cabinet a présenté un plan pour appliquer malgré tout l'accord de paix de 2018.
Martin Elial Omoro est longuement revenu sur les événements de Nasir. Il évoque le massacre de 400 soldats de l'armée sud-soudanaise par la White Army avant de revenir sur les divisions au sein du parti de Riek Machar, le SPLM-IO.
Certains membres du SPLM-IO font actuellement l'objet d'une enquête. D'autres se cachent ou ont décidé de fuir le pays. Et puis il y a ceux qui sont au gouvernement avec nous. Le fait qu'une faction du SPLM-IO soit absente n'annule pas l'accord de paix. Nous devons être clairs là-dessus. Donc la commission de haut niveau pour la mise en œuvre de l'accord de paix qui rassemble tous les signataires va convoquer de façon urgente une réunion afin de reconnaître la faction légitime du SPLM-IO et ce afin de continuer à mettre en œuvre l'accord de paix.
Le ministre a notamment fait part de démarches pour financer la préparation des élections prévues pour décembre 2026. Des annonces qui laissent sceptique Enoun Yakani, directeur de l'organisation de la société civile, CEPO.
Au moins nos dirigeants disent qu'ils vont développer une nouvelle feuille de route pour vraiment appliquer l'accord de paix. Nous espérons qu'ils vont cette fois tenir parole, car précédemment de telles promesses sont toujours restées vaines.
Pour le militant, ces annonces visent en fait avant tout à justifier les violations de l'accord de paix, et ce alors que la violence se propage. Vendredi, l'ONU a appelé à l'arrêt des combats qui ont éclaté cette semaine au sud de Djouba. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Eux ont signé une déclaration de principe. La RDC et le Rwanda se donnent jusqu'au 2 mai pour parvenir à un accord de paix. La diplomatie plutôt que la force, alors que dans l'est de la RDC, on s'inquiète désormais des conséquences économiques des combats entre l'armée et le M23. Dans le territoire de Massissi, la production de fromage est à l'arrêt, un secteur clé connu dans tout le pays et qui faisait vivre de nombreuses familles sur place. Le récit de Paul Lorgerie.
Au sommet des collines verdoyantes du Massissi, l'angoisse des fermiers et des habitants est palpable. Prostré dans sa boutique, Ouagenedza confie que l'un de ses produits phares, le fromage produit dans la cité de Mushaki, se fait aujourd'hui rare.
Je vends du lait et du fromage, mais le travail marche au ralenti. Auparavant, un fromage se vendait 7000 ou 8000 francs congolais. Mais maintenant, avec la hausse des prix en fromagerie, nous les vendons à 10 000 francs. Et nous devons les acheter à Kichang, car nous n'en produisons pas ici.
Parmi les causes de la pénurie de fromage, la faible production de lait. Lors des derniers combats, plus de 2000 vaches auraient été volées par les miliciens Wazalendo. Dolango, qui est fermier, en a été victime.
J'avais des vaches qui me donnaient 12 bidons de 20 litres par jour, mais elles m'ont été volées. En tout, les miliciens Nyatura ont dû me voler plus de 100 têtes. Mais depuis l'arrivée du M23, j'ai acheté quelques vaches qui me donnent actuellement 2 bidons par jour.
Faustin, lui, observe un timide retour à la normale.
S'il y a eu la guerre, aujourd'hui nous avons la paix et nous n'avons plus peur pour nos vaches. Aujourd'hui, nous pouvons produire jusqu'à 3 bidons de 20 litres, alors qu'avant, pendant les combats, nous étions à peine à plus de 5 litres.
Très connus dans la région, des fromageries comme Malaika Lodge ou encore la ferme Espoir ont dû mettre la clé sous la porte.
Paul Lorgerie, et je vous le disais, la RDC et le Rwanda ont donc signé une déclaration de principe à Washington. Que contient-elle? On vous dit tout sur RFI.fr. Du foot à présent. Et cette question, qui sera l'élu pour le prix Marc-Vivien Fauré 2025? Vous le savez, chaque jour et jusqu'au 5 mai, on vous présente l'un des 12 nommés pour ce trophée dédié au meilleur joueur africain du championnat de France. Aujourd'hui, zoom sur Moussa Niakate, le défenseur central sénégalais de l'Olympique Lyonnais. Baptiste Leduc, pour sa première saison dans le Rhône, il s'est vite imposé comme un élément indispensable.
Difficile de se cacher quand on arrive avec l'étiquette de recrue la plus chère de l'histoire de son club. Pas toujours titulaire en début de saison, Moussa Niakate a travaillé dur pour s'imposer dans la défense lyonnaise. Pas une surprise pour Hervé Penaud, consultant Radio Foot International.
Aujourd'hui, il est indiscutable pour Paulo Fonseca. C'est un très bon joueur de tête, c'est un très bon joueur physique sur l'impact. Alors parfois, techniquement, c'est pas le joueur le plus sûr de France, j'allais dire. Mais à côté de ça, on sait ce qu'on peut avoir de lui. Plus c'est un tempérament visiblement qui est très très positif. Ça dépasse un peu aussi le cadre du foot. C'est quelqu'un qui a du poids, qui a de l'impact, qui parle aux autres et qui sait imposer ses points de vue et ses visées.
Pas un hasard non plus si le défenseur sénégalais a été l'un des seuls Lyonnais à s'exprimer au cœur de la tempête après l'élimination cruelle en Ligue Europa à Manchester et la défaite amère dans le derby contre Saint-Etienne. Les épreuves ont révélé un tempérament de leader chez Moussa Niakate.
C'est vrai que cette année, avec beaucoup de choses qui se passent, même en dehors terrain. Ça, c'est vrai que je ne l'avais pas vécu avant, par rapport à notre président, par rapport à notre club. Tout ce type d'événement, ça c'est vrai que c'est pas commun.
Lucide hors et sur le terrain, Moussa Niakate est parmi les rares défenseurs titulaires du championnat à n'avoir récolté aucun carton sur les 30 premières journées. L'OL aura besoin de sa propreté pour le sprint final.
Baptiste, le duc de la musique, avant de refermer ce journal et un voyage à travers la vie, c'est ce que nous propose Femi Kuti dans son nouvel album enregistré au Nigeria et mixé à Paris. Journey Through Life, c'est le nom de ce disque, revisite la vie et l'œuvre de l'artiste. Olivier Roger l'a écouté pour nous.
Femi est le digne héritier de Fela, disparu en 97. Reprenant le drapeau de l'Afrobeat, hissé par son père, il a aussi ressuscité sa mythique boîte de nuit, le Shrine, redevenu le temple de la musique lagosienne. Dans son nouvel album, il s'offre une pause en forme d'introspection, parler de lui, de sa vie et du nécessaire équilibre à trouver, et le thème de la chanson d'ouverture qui porte le même nom que l'album, Journey Through Life, le voyage à travers la vie. Mais on n'échappe pas à une vie entière de militantisme et Femi Kuti ne résiste pas à l'envie de dénoncer les politiciens corrompus, comme sur Politics Don't Expose Them, ou encore le bilan catastrophique des dirigeants dans After 24 Years. Le tout sur des cuivres majestueux, un saxophone, le sien tonitruant, et des basses fulgurantes. À 62 ans, Femi Kuti en est à l'heure du bilan et il propose de revisiter certaines de ses plus célèbres compositions comme Think My People Think ou encore Shotan, une sorte de passage de témoin, son fils Madé étant désormais associé à son travail.
Voilà, Journey Through Life, voyage à travers la vie, le 13e album de Femi Kuti sur RFI. Il est 3h42 en temps universel.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Afrique Matin sur RFI. Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, un jeune prodige de l'intelligence artificielle et une start-up pour dématérialiser les déclarations, les têtes d'affiche de Denis Zépoté. À quoi ressemblait Gaza il y a 80 ans? Question que l'on pose à Arlette Coury-Tadier qui sort un livre pour raconter son enfance dans l'enclave palestinienne. Et puis notre reportage culture à la rencontre de l'auteur Ersine Karaboulot qui lui raconte ses années de dessinateur de presse en Tunisie et la répression croissante du régime d'Erdogan. Mais d'abord, suite et fin de notre série de reportages sur la piste des premiers Gabonais. Ce matin, on vous emmène dans la région de Lastourville, quelques 9000 hectares et plus d'une quarantaine de grottes, des cavités habitées durant des milliers d'années. Même si leur histoire reste largement à découvrir, 9 d'entre elles ont demandé un classement auprès de l'UNESCO. François Mazet s'est rendu dans l'une d'entre elles. Reportage.
Accéder aux grottes de la région de Lastourville se mérite. Il faut braver la forêt équatoriale qui engloutit chaque année les pistes utilisées par les communautés locales. C'est donc tronçonneuse à la main que nous quittons Kessipougou avec quelques hommes du village pour débiter les arbres qui entravent l'avancée de notre véhicule. Suit une demi-heure d'une marche difficile à travers une dense végétation pour arriver devant la haute cascade qui cache l'entrée de la grotte de Ngongourouma.
Il faut bien que je vous présente à la grotte de Ngongourouma.
Ulrich Schultz Bavekumbu est notre guide aujourd'hui.
Ngongourouma, yoname, mutelabashi bukonze, mutelabashi makandra, mutelabashi nyanga, mwanabashi pungu, aïdina François, mumwabune libuau.
Une fois présentés aux esprits de la grotte et des ancêtres, nous nous glissons à l'intérieur. Ulrich nous montre un point de relevé scientifique.
Les études ont montré qu'il y a de cela plusieurs milliards d'années, les gens y habitaient parce qu'on a retrouvé du charbon, donc de la matière cuite, les os des animaux que les gens consommaient par rapport au prélèvement à l'étude de la carotte prélevée ici dans la grotte de Ngongourouma.
Au sol, l'eau est partout, les parois ruissellent, sous les hautes voûtes, c'est le balai de milliers de chauves-souris. La grotte est le royaume de la faune locale.
Avec 4 espèces de mammifères qui habitent, les roussettes, les Nepturis inflactus, les gigas et les cafards. Et sans oublier le monde aquatique, on retrouve les poissons-chats, les crustacés comme les petites les crevettes et les petits crabes. Les animaux comme les petits mammifères, les reptiles. Et elle aussi a été l'habitat de la mise bas de félins, comme les panthères. L'une des particularités ici au-dessus de Ngunguruma, c'est que nous retrouvons des colonies de primates, les chimpanzés, qui sont les animaux totems des Awandji. Donc elles sont pratiquement au paradis, elles ne sont pas chassées par le peuple Awandji.
Elle fait quelle taille cette grotte?
Près de 1 km de long, c'est pratiquement l'une des plus grandes grottes de l'Afrique centrale, avec des largeurs qui vont au-delà des 40 mètres et des hauteurs qui vont pratiquement à près de 60 mètres.
Toutes les galeries n'ont pas encore été explorées par des scientifiques à Ngunguruma, ni dans les grottes de Lastourville en général. Dans certaines, des gravures, des dessins ont résisté au temps et à l'humidité. Des restes de poterie, de pierres de taille ou de torches ont été retrouvés. Les communautés locales espèrent le classement par l'UNESCO, mais elles veulent surtout préserver ces sites rituels et ancestraux. François Mazet, de retour de Lastourville, RFI.
Voilà pour ce dernier épisode de notre série sur les premiers Gabonais. Les deux premiers volets sont à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. Dans l'actualité internationale de ce dimanche 27 avril, 14 morts et des centaines de blessés, bilan de la puissante explosion survenue hier midi dans le plus grand port de commerce de l'Iran, Shahid Rajai, où passent 85% des marchandises de l'Iran. Dans un communiqué repris par la télévision d'État, les douanes du port ont indiqué que la catastrophe était probablement due à un incendie dans un dépôt de stockage de matières dangereuses. Dans la soirée, l'incendie faisait toujours rage, attisé par le vent. L'Iran et les États-Unis ont convenu de poursuivre les négociations la semaine prochaine au terme d'un troisième cycle de discussions à Oman sur le dossier du nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie iranienne s'est dit extrêmement prudent, tandis que Washington a fait état de progrès. Donald Trump estime que les navires militaires et commerciaux américains doivent être autorisés à emprunter le canal de Panama et de Suez, mais gratuitement. Environ 40% du trafic de conteneurs américains transite par le canal de Panama chaque année. Depuis son élection, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de reprendre, ce sont ses termes, le contrôle du canal de Panama sans exclure le retour à la force. Et puis, le Hamas se dit prêt à un accord pour la libération en une fois de tous les otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve de 5 ans avec Israël. À Gaza, selon la défense civile palestinienne, au moins 35 personnes ont été tuées hier dans des bombardements israéliens. À 3h47 en temps universel, comme tous les dimanches, on s'intéresse à deux entrepreneurs du continent aux idées innovantes. C'est les têtes d'affiche de Denise Epoté. Elle est ce matin avec Simon Bourtembourg.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté ce dimanche. Bonjour Denise.
Bonjour Simon.
Votre première tête d'affiche est originaire du Maroc. Hamza Cherkaoui est le responsable de la transformation digitale au sein de l'autorité marocaine de la supervision des entreprises d'assurance et de réassurance. ChangeEar, la plateforme qu'il a mise au point, a révolutionné la gestion des déclarations réglementaires. Une innovation qui lui a valu le deuxième prix de l'African CEO Awards dans la catégorie innovation. C'était à l'occasion du JTEX Africa à Marrakech.
Déployée en 2019, la première version de la plateforme a connu une refonte afin d'améliorer ses fonctionnalités, telles que le calcul automatique des amendes et la gestion automatisée des dérogations. La plateforme se décline en trois versions adaptées aux différents acteurs du secteur, les compagnies d'assurance, les caisses gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les caisses de retraite. En Afrique, en Europe et en Asie, le caractère innovant de la plateforme a été salué. Elle permet un gain de temps énorme en offrant une solution fluide et automatisée des états. L'hébergement sur serveurs locaux optimisés garantit la réduction de l'empreinte carbone. ChangeEar améliore la traçabilité des déclarations en réduisant les risques de fraude. En matière de sécurité et d'intégrité, cette solution locale favorise l'indépendance technologique et le soutien à l'écosystème des startups et prestataires locaux. Dans le cadre du guichet unique, la plateforme est appelée à évoluer.
Votre seconde tête d'affiche, Denise, est originaire du Mali. Du haut de ses 17 ans, Ousmane Diko dirige depuis 2 ans la première entreprise nationale spécialisée dans l'automatisation du service client, fonctionnant donc à 100% avec l'intelligence artificielle. Un patron atypique qui est convaincu que grâce à l'IA, l'Afrique connaîtra une nouvelle ère entrepreneuriale.
Depuis l'âge de 13 ans, Ousmane Diko cumule les compétences en chatbot et en intelligence artificielle. À 15 ans, il crée au Mali Diken Media. la première entreprise d'automatisation grâce à l'intelligence artificielle. La start-up propose 3 solutions pour aider les entreprises à se développer à travers la création d'employés IA, autonomes et disponibles 7 jours sur 7 pour des tâches variées. Elle développe également des outils adaptés aux réalités africaines. À l'actif du jeune chef d'entreprise, 2 outils. Rut AI, après avoir collecté des informations, il vous fournit des recommandations personnalisées, mais également Ambaga AI, qui est le premier employé IA 100% malien. À partir d'un nom, d'un mail et du site d'un prospect, Ambaga rédige des mails personnalisés, gère les relances et discute avec le prospect pour décrocher un rendez-vous qu'il réserve dans votre calendrier. Prochain outil sur lequel travaille Ousmane Diko, créer le premier modèle de langage IA 100% malien. S'il déclare que l'intelligence artificielle générative lui fait peur, Ousmane Diko reconnaît qu'elle permet d'aller plus vite dans un monde qui change au même rythme avec une réalité d'interdépendance entre des grands pôles urbains à niveau national et supranational. L'intelligence artificielle est une opportunité inestimable pour le développement des territoires et des entreprises qui investissent dans cette technologie et qui ont de grandes chances d'avoir une longueur d'avance sur les concurrents en termes d'opportunités économiques et de savoir-faire.
Les têtes d'affiche de Denise Zépoté. Merci Denise et bonne journée.
Denise Zépoté avec Simon Bourtembourg.
Elle est aujourd'hui transformée en champ de ruines, pilonnée quasi sans interruption depuis le 7 octobre 2023 par l'armée israélienne. Gaza, l'enclave palestinienne, était autrefois un lieu paisible. Dans son livre « Une enfance à Gaza, 1942-1958 », Arlette Coury-Tadier y raconte son enfance entourée de gens amicaux et pacifiques. C'est notre livre international du jour. Arlette Coury-Tadier répond aux questions de Laurence Théo.
Bonjour Arlette Coury-Tadier.
Bonjour Laurence.
Une enfance à Gaza, la vôtre, vous êtes née pendant la Seconde Guerre mondiale et votre témoignage est précieux. Alors quand on lit ce récit magnifiquement écrit, on se dit que Gaza n'a pas toujours été cette ville en gravats qu'elle est aujourd'hui. C'était une ville riche.
C'était une ville riche au point que même Abba Eban, je crois, l'a appelée à un moment donné la Suisse de Moyen-Orient. Il n'y avait que des villas. C'était au point que quand mes parents sont arrivés en 1942, j'avais 3 ans et mon petit frère venait de naître, et à ce moment-là, il était impossible de trouver une aide à la maison. Personne ne voulait faire travailler ses filles.
Vous dites que chaque ville a son odeur. Quelle était l'odeur de Gaza?
L'odeur de terre mouillée, parce que c'est une ville qui avait, mais je crois qu'elle n'a plus parce qu'ils les ont vidées, elle avait d'énormes nappes phréatiques. Et il n'y avait pas beaucoup de pluie, il y avait de temps en temps pendant l'été, pendant l'hiver ou à l'automne. Et donc, la nuit, on entendait justement les pompes qui sortaient l'eau pour arroser.
On parcourt avec vous, Arlette Coury-Tadier, cette enfance gaie, émouvante aussi. Mais vous assistez aussi à la grande histoire de Gaza, avec la création de l'État d'Israël en 1948 et les violences de la guerre israélo-arabe. Des milliers de Palestiniens sont expulsés de leur territoire. Vous avez 9 ans quand vous voyez arriver tous ces réfugiés.
L'État d'Israël a été créé le 15 mai 1948. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vu arriver des hordes de gens, mais vraiment des hordes de gens. Les rues de Gaza étaient vides, en général. Et là, elles charriaient des gens de toutes
les... Des milliers de gens.
Et donc, ces gens-là arrivaient vraiment l'air hagard. Parfois même avec une chaussure, parfois même sans chaussure. Parfois traînant des gosses, parfois les portant dans les bras, parfois pleurant parce qu'on ne trouvait plus son enfant. Ces gens-là, ils étaient venus à pied, des villageois qu'on avait chassés de leur village. Ils arrivaient, ils marchaient, ils ne savaient pas où aller. Ils ne demandaient rien à personne parce qu'ils étaient tellement fatigués d'avoir couru. Certains avaient reçu quelques balles dans le dos. Ils les avaient laissés sur le bord du chemin. De temps en temps, on leur offrait quelque chose à boire ou à manger. Vous regardez, certains se jetaient sur la nourriture et d'autres passaient comme si vous ne voyiez même pas.
Évidemment, le 7 octobre 2023 marque une rupture très violente. Quel est votre regard là-dessus et sur la suite ?
Difficile. Alors mon regard, c'est que le Hamas, je ne suis pas pour. Mais il y a un moyen de comprendre. Ce n'est pas la première fois qu'à Gaza, il y a eu des problèmes. Il y a eu souvent des bombardements israéliens, il y a souvent eu des morts, et à chaque fois qu'on vous dit, il y a que 1000 blessés, il y a 300 blessés, etc. Bon, un jour ou l'autre, profitant de ce que les Israéliens se croient invincibles, donc ils ont profité pour faire la même chose. Effectivement, je ne suis pas pour ni le fait qu'ils soient allés tuer les gens, ni le fait qu'ils prennent des otages, etc. Mais ils ont employé les moyens qu'on a employés avec eux. Alors, qu'est-ce que ça va devenir ? Ça, je seul le sais, parce que pour le moment, c'est un champ de ruines. Ceci étant, Gaza, ce n'est pas la première fois qu'elle a été un champ de ruines. sous Alexandre le Grand, elle était aussi à la Charte Ruyte. Et donc, j'espère qu'elle va se relever de ses cendres.
Alors, est-ce que vous vous tenez au courant, est-ce que vous écoutez les informations, ou au contraire, ça vous fait trop mal?
Ça dépend des jours. Il y a des jours, j'écoute, je lis, etc. Mais effectivement, il y a des jours, j'arrive pas à dormir.
Vous n'êtes pas optimiste pour l'avenir? Ce conflit ne se réglera pas un jour?
Tout finit par finir. Mais en fait, comment savoir? Ça prendra le temps que ça prendra. Je pense que Gaza connaîtra de ses cendres. Mais quand? Si on veut en faire une riviera européenne ou américaine, que sais-je, ben il faut attendre le temps qu'elle se détruise.
Merci beaucoup Arlette Kouritadier. Je rappelle que votre livre « Une enfance à Gaza, 1942-1958 » est publié aux éditions Hémisphère.
Arlette Kouritadier avec Laurence Théo. Entretien à réécouter en version longue sur notre site RFI.fr, onglet « Livre international ». Bientôt 4 heures en temps universel. Avant de retrouver Pierre Boudias pour le journal, on fait un détour par la Tunisie. C'est là que nous emmène notre reportage culture ce matin. Le journal inquiet d'Istanbul, c'est le nom du deuxième tome de l'autobiographie d'Ersin Karabulut, ce dessinateur de presse qui raconte comment et pourquoi il a choisi l'exil face au régime d'Erdogan. Sophie Torlotin nous le présente.
Ce deuxième tome commence en 2017 à Los Angeles. Ersin Karabulut quitte son pays, en théorie, pour 6 mois, et il raconte comment il en est arrivé là. 10 ans plus tôt, en 2007, le jeune dessinateur, alors âgé de 26 ans, a le vent en poupe. Avec 5 amis, il lance un magazine satirique qu'il baptise Uykusuz, Insomniaque.
On était des oiseaux de nuit. On a cette tradition en Turquie dans les magazines de travailler la nuit, surtout les soirs de bouclage, avant d'envoyer les pages à l'imprimerie. C'est pour cela qu'on a choisi ce titre. Mais c'était aussi une façon de dire que la politique nous empêchait de dormir.
Il faut tout faire, concevoir la structure du magazine, embaucher des auteurs, trouver une imprimerie pour le journal. Ersin Karabulut raconte les soubresauts de sa vie personnelle et professionnelle et revient en parallèle sur les événements politiques. Les soulèvements contre la destruction du parc de Gezi en 2013, la tentative de coup d'état de l'armée et la consolidation du pouvoir d'Erdogan allant de pair avec une répression de la liberté d'expression.
Je raconte mon évolution, celle du magazine et celle d'Erdogan en parallèle. Un peu comme dans les comics, l'antagonisme entre un super-héros et un méchant. Nous tentions de faire les choses au mieux pour notre pays. Et c'était courageux. Erdogan voulait un retour en arrière. Le magazine a toujours lutté contre lui et nous en sommes fiers.
Toujours porté par son humour et son humilité, Ersin Karabulut livre les états d'âme d'un jeune stambouliote au départ pas très politisé ni courageux, qui évolue à mesure que le pouvoir se durcit, que la pression religieuse se précise et que les soubresauts du monde le touchent, comme l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo en 2015.
On ne pourrait plus faire les mêmes unes de nos jours, c'est impossible. Quelquefois je regarde nos archives et je suis choqué et surpris. Si je republiais ces dessins, j'irais directement en prison. Je n'ai même pas envie de vous dire à quel dessin je fais référence parce que je ne veux pas que les autorités les voient.
Surmené et déprimé, Ersin Karabulut quitte son pays en 2017. Après les États-Unis, il vit désormais en France. Et si son journal inquiet d'Istanbul s'achève en 2017, il pourrait poursuivre son autobiographie avec « Qui sait ?» Un journal inquiet de Paris.
Sophie Torlotin du service culture d'RFI. Et c'est donc avec le reportage culture que se referme cette demi-heure d'actualité africaine. Préparée et réalisée ce matin avec Laurent Hérault et Pierre Pinto. Merci à eux, merci à vous, surtout de nous avoir suivis. Restez bien à l'écoute de RFI. Dans une minute, un nouveau journal.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Les cuisines d'Afrique se transmettent dans les livres aussi. Les mots retranscrivent les gestes, la main, l'œil. Ils sont investis d'une responsabilité plus grande encore. Les livres sont une trace, une mémoire de l'oralité. Bien plus que des recettes, ce sont des cultures et l'âme du continent qu'ils racontent. Les cuisines africaines se listent aussi tout à l'heure à 21h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navi sur RFI.
Vivez sur RFI les demi-finales de la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Comme l'an passé, le PSG est dans le dernier carré de la Ligue des Champions et cette fois, après Liverpool et Aston Villa, c'est Arsenal qui est sur sa route. Première manche à l'Emirates où les Gunners avaient été impressionnants face au Real Madrid. Arsenal-PSG, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce sera à vivre ce mardi en direct et en intégralité sur RFI. Coup d'envoi à 19h, temps universel.